Alléluia. Alléluia. L'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement qui est extrêmement pointu et qui, pour beaucoup, va être nouveau à cause même du thème. Le thème d'aujourd'hui a pour titre l'apostasie personnelle. L'apostasie personnelle. Ne faites pas les choses du village à que vous allez insulter quelqu'un qui a apostasie toi aussi. Quand on a un mot nouveau, on cherche la définition. L'apostasie personnelle. Le verset biblique qui sert de référence initiale pour traiter de cette problématique est Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le terme apostasie, en grec, apostasia, apparaît à deux reprises dans le Nouveau Testament, sous la forme nominale de acte 2, acte 21-21, acte 21-21, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Et ici, dans Hébreux 3, le verset 12, sous la forme verbale, qui veut dire en fait se détourner. Parce que quand on veut regarder en grec, c'est aphistémi. Aphistémi qui veut dire se détourner. Donc le terme grec veut se traduire par s'éloigner, déserter, se rebeller, abandonner, battre en retraite ou revenir sur un engagement. Vous allez lire avec moi acte 21-21, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Acte 21-21, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3.
Acte 21-21, il est écrit. Or, ils sont au courant de bruit qui court à ton sujet. Ton enseignement pousserait tous les Juifs qui vivent parmi les païens à abandonner Moïse. Tu leur dirais de ne plus circoncire leurs enfants et de ne plus suivre les règles. Amen.
Jésus-Christ donne un enseignement. Au lieu que les gens comprennent l'évolution de l'enseignement, ils commencent à faire des séparations entre l'enseignement que Moïse a donné et l'enseignement que Christ a donné. Ce qui montre qu'ils sont en train de se détourner, ils ne comprennent même pas en fait le fond de l'affaire, ils ne savent même pas qui est en train de leur parler. Est-ce que vous pouvez lire 2 Thessaloniciens 2, le verset 3?
2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition.
Amen. Bien. Donc, apostasier signifie rompre toute relation avec Christ ou se retirer de l'union vitale et de la véritable foi que nous avons en lui. Ainsi, l'apostasie individuelle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenter le salut, la régénération, le renouveau à travers l'Esprit Saint. Lisez, n'est-ce pas, pour qu'on soit en harmonie, lisez Luc 8, le verset 13, et Hébreux 6, le verset 4 à 5. Luc 8, le verset 13, Hébreux 6, le verset 4 à 5.
Luc 8, verset 13. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. Amen.
Vous comprenez pourquoi j'ai dit qu'il est dangereux que certains n'arrivent pas à asseoir leur propre conviction. Je prends une épreuve parce que ça peut en être un. À cause d'une dimension affective et d'un attachement qu'elles ont eu, mentalement ou inconsciemment d'ailleurs, à l'envoyer. Si l'envoyer n'est pas là, c'est jusqu'à ça vaut plus la peine d'aller là-bas. Je vais revenir quand il va revenir. Mais ils sont comme des gens comme ce qu'on vient de dire là. Elle dit que votre foi est faible. Vous n'avez pas compris que l'envoyé est un instrument de Dieu et que les ouvriers autour de lui sont aussi des instruments de Dieu et que le ministère n'appartient pas à un individu mais appartient à une communauté. Je vous préviens parce que je vous connais. Dieu m'a déjà parlé du dossier là plusieurs fois. Regardez-la bien. Regardez-la. Certains ont commencé à penser que l'envoyé va aux États-Unis, moi, il va prendre le congé avec l'Esprit Saint. Oui. Je vais prendre le congé avec l'Esprit Saint. Je vais d'abord aller en enfer un peu, aller voir si c'est bon là-bas. Après, quand l'envoyé va revenir, on va voir si je suis délivrable. Oui, mais il faut que quelqu'un s'occupe de vous dire la vérité. C'est ce que ça veut dire. Comment se fait-il que certains aient même déjà pensé ça dans leur tête? Ah bon? Il va hors du pays. Ah non, mais je vais prendre le congé. Quelle erreur! C'est un détournement de la voie que Dieu vous a donnée. Vous arrivez dans un site qui est un site de miracles. Vous venez vous nourrir en permanence chaque dimanche. Parce que l'Esprit Saint opère comme miracle en ce lieu. Quand le berger n'est pas là, vous dites que non, vous ne vous nourrissez plus, vous allez encore vous nourrir de l'autre côté. Il s'agit d'apostasie. D'abord au niveau comportemental, c'est déjà de l'apostasie. Que personne ne tombe dans l'erreur par rapport à cela. Vous ne venez pas ici pour l'envoyer, vous venez ici pour votre propre salut. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'on a lu Hébreux 6, 4 à 5? Allez-y.
Hébreux 6, verset 4 à 5. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le bon céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés. Amen.
Il y a une phrase qui me revient, qui est biblique, je ne retrouve même pas le passage. Lorsque quelqu'un tombe ainsi, frappé d'apostasie par sa propre mentalité, il ressemble au chien qui récupère ses propres vomis. Le chien vomit, après il rentre encore consommer ses propres vomis. C'est biblique ce que je dis. Ou bien au cochon, au porc qui rentre dans la boue. Tu le laves bien, il est scintillant. Dès que tu tournes les yeux, il tombe dans la boue, plaf, pour annuler tout le bain. Il dit après tout, je suis quand même un porc. Un bon porc doit se salir bien. Il faudrait avoir conscience de ce que vous avez une trajectoire rapide. Il y a beaucoup de bénédictions disponibles dans ce ministère. À force de déclarer, à force d'enseigner, les bénédictions sont disponibles. Il manque ce qu'on appelle en chimie un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? C'est quoi? Un activateur, une substance qui permet de matérialiser une réaction chimique. Le catalyseur qui manque pour la majeure partie des personnes ici, c'est vos cœurs. Avec quel cœur vous êtes ici? Avec quel cœur vous venez? Est-ce que c'est le cœur de voleur, le cœur de curieux, le cœur de tentateur, le cœur d'imposteur? Le cœur de ceux qui pensent qu'ils sont allés voir un marabout ou de ceux qui pensent qu'ils sont allés voir juste un faiseur de miracles. Parce qu'il y en a, quand ils parlent de moi, ils se disent « Non, mais le gars, il est puissant. Il est vraiment. Il est puissant. Il fait des choses miraculeuses. » Oui, mais est-ce que tu as compris que comme il fait là, c'est pour que toi aussi, les choses se passent dans ta vie. Vous étiez ici demain. Je ne pose pas la question, ce n'est pas une question piège. Vous étiez ici dimanche dernier. Quelle était la tendance de la grande partie des témoignages? La grande partie des témoignages montrait que le peuple, une partie du peuple, a une foi qui est devenue si vivante qu'ils ont commencé à comprendre qu'ils peuvent personnellement, grâce au contact avec l'envoyé, avoir une relation personnelle avec l'Esprit Saint. Or, c'est tout le monde qui doit arriver à ça. Les témoignages étaient d'une beauté. C'est pour moi, ce sont les plus beaux témoignages que j'ai déjà entendus depuis qu'on est ici. Jamais on n'avait eu la preuve aussi palpable qu'une partie du peuple a déjà commencé à réaliser que nous pouvons, on a la foi, on a l'Esprit Saint disponible, il y a l'onction qui est disponible, il y a le matériel que Dieu a donné à l'envoyer qu'on peut même emprunter. Dieu ne nous refuse pas ça. Quand je vois des mamans et des petits-enfants qui savent qu'ils peuvent convoquer le manteau de l'envoyé, un instrument de guerre. J'étais assis là, je m'exclamais dans ma tête que je Rwanda même. Mais c'est un niveau de foi considérable. Quand je vois plusieurs qui témoignent en disant que j'ai voulu appeler la voix, après il peut se moquer de moi. Mieux, je demande moi-même à l'Esprit Saint de m'aider. Vous ne pouvez pas imaginer la beauté qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se structurer profondément. Or, chacun d'entre vous doit arriver au minimum à ce niveau d'autonomie. Chacun d'entre vous doit arriver au minimum à ce niveau d'indépendance. Tu fais d'abord, avant d'appeler de l'aide, tu fais d'abord. L'Esprit Saint te montre qu'il est là dans ta vie. Il est présent. Même quand tu n'as pas encore l'Esprit Saint, tu as droit à l'Esprit Saint qui visite. Tu l'appelles, il vient. Il vient, il mène le combat là pour toi. Il anéantit tes adversaires et il part. C'est ça qui est intéressant. C'est là où certains voient qu'ils peuvent venir dans le ministère, ils guettent, ils lorgnent. Ils sont éloignés. D'autres sont habitués au marabout. Il y a des gens ici, vous ne pouvez pas les dire. Je ris souvent dans mon cœur quand je reçois. Quelqu'un arrive. En fait, il a la liste des problèmes qu'il a prévu me poser. Tu finis tout un enseignement comme ça. Quelqu'un arrive, il ne sait pas qu'en fait, pendant l'enseignement, sa délivrance a commencé. Pendant qu'on faisait la délivrance, sa délivrance a eu lieu. Pendant les louanges et les adorations, lui-même, il a reçu sa part. Il vient, il s'assoit devant toi. Plus. C'est qu'un. Bonjour papa. Mais problème. La liste. Le premier c'est que. Le deuxième c'est que. Quand tu me trouves bien fatigué, je ne peux plus faire la diplomatie. Et tu dis que oui, j'ai compris. Va suivre le programme de prière. Tu vois comment les épaules des personnes tortent. Comment il peut me dire ça? Il ne veut même pas écouter tous mes problèmes. Il dit seulement que va suivre le programme de prière. Si tu suis le programme de prière, ça va changer. Ils partent souvent de devant moi là, avec une foi petite comme ça, absente même. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, qui est fondamental, ce n'est pas entré dans leur tête. Ce sont des comment? Nous avons qui fait des miracles, non? On va souvent chez les marabouts. Et on va souvent chez les hommes de Dieu qui se font aussi traiter comme s'ils étaient des marabouts. Donc lui aussi, il doit fonctionner comme des marabouts. Tu viens, tu poses les problèmes. Quand tu as fini de poser, il commence à accuser les gens dans ta vie. C'est ta grand-mère qui a fait ça, c'est ton grand-père qui a fait ceci, c'est ton père. Quand tu as fini d'accuser les gens, toi tu es sain dedans, tout va très bien. Tu n'as rien à faire. Il suffit seulement d'enlever ce que les gens ont fait contre toi et de détruire tes ennemis. Toi, ça va très bien. Ta relation avec Dieu est parfaite. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Quand tu viens me voir, premier axe que Dieu me montre, c'est toi, tes saletés. Même si je ne te dis pas, c'est d'abord ça. C'est pourquoi je te dis, va respecter le programme de prière. Va d'abord arranger l'axe central et principal qui est ta relation avec Dieu. Commence-moi à reprendre la route qui te permet d'aller dans le bon sens. Mais il y a plein de gens qui n'obtiennent pas les délivrances parce qu'ils ont tout fait excepté l'essentiel. Oui, quand on finit de balayer, parce que ça, ce n'est pas un problème. Quand tu t'assois là, parfois, ils ne savent rien, ils ne disent rien. L'Esprit Saint commence à nettoyer, mais après, il s'arrête. Parce qu'il attend voir comment toi, tu vas faire ta part. On détruit d'abord tes adversaires. Papa, on détruit tout. On anéantit tout ça. On les neutralise. Tu es un peu inaccessible, mais en même temps, tu es sale. Il y a une ingénierie dans cette affaire. C'est parce qu'on a nettoyé tout autour de toi que toi tu es devenu propre subitement. Toi, tu es sage. Quelle est ta direction dans la marche avec Dieu? Tu n'en as même pas encore. Quand j'étais ignorant de ce que j'étais, selon Dieu, j'aimais ça. Je priais souvent, mais de temps à autre, j'aimais voir qui peut même prier pour moi. Dieu m'a dit un jour simplement et froidement, sèchement, je veux que tu pries. Le message n'était pas long. Hein. Je veux que tu pries, toi, prie. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Un message simple. Mais comme moi, je suis toujours que... Bon, c'est parce que je suis de Dieu. Je suis un aîné de Dieu. Donc, quand je sais qu'un message vient de Dieu, je le prends très au sérieux. Même si c'est passé par un enfant de cette taille-ci. Que l'enfant, il me dit que Dieu a dit que... Quand j'entends le message, l'Esprit me dit que c'est Dieu qui a parlé. Je suis resté comme ça, je dis que pourquoi Dieu me dit ça? Bon, comme je ne connaissais pas encore, je ne connaissais pas la science de la vérité, je n'avais pas la connaissance de la vérité. Bon, je me suis dit que je vais investir, c'est tout. Je vais prier. Dieu a dit que je veux que tu pries. Même si je ne comprends pas pourquoi, je prie. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils sont les adeptes du prier pour moi. Ouais, on va prier pour toi jusqu'à quand? Quelle est ton épaisseur, ta densité pour rester en complicité avec Dieu, pour ne pas t'égarer? Il faut en train de savoir même si tu étais par là-bas avant de t'égarer. Parce que certains sont tellement égarés, qu'ils sont tellement loin de Dieu qu'il faut un catégorie pour les ramener dans le bon axe. Il faut même le proclamer. Dans cette mentalité que certains ont là, qui viennent, quelqu'un n'a pas encore fait sa part, il n'a encore rien fait, il vient poser les problèmes. On va résoudre ses problèmes. La maman qui a témoigné là, qui aime souvent appeler l'autorité de l'envoyer, elle vous a dit ici, lors de son témoignage, le premier témoignage, qu'elle est venue me parler du voisin. Non? Elle est regardée comme ça, j'ai ri. Mais tu n'as pas le problème avec le voisin, tu as ton problème de ta relation avec Dieu. Quel est le contenu de ta relation avec Dieu? Donc ça restera quelque chose de fondamental, que vous le veuillez ou pas. Laissez la paresse, fuyez la paresse, évitez la paresse, combattez la paresse.
Amen.
Amen. Amen la timide.
Amen.
Le diable s'appuiera souvent sur la paresse pour vous pousser à l'apostasie. Or, si vous combattez la paresse, l'Esprit Saint va toujours être avec vous et vous allez rarement vous égarer.
Amen.
Bien. L'apostasie n'est pas en fait un simple rejet de la doctrine du Nouveau Testament par une personne inconvertie au sein de l'Église visible. L'apostasie implique deux aspects qui, bien qu'apparentés, sont distincts l'un de l'autre. Premièrement, l'apostasie théologique, c'est-à-dire que quoi? Le rejet de tout ou une partie de l'enseignement original de Christ et des apôtres. Deuxième chose, l'apostasie morale, c'est-à-dire qu'un ancien croyant cesse d'être un en Christ et redevient un esclave du péché, de l'immoralité. Ces deux pans-là relèvent de l'apostasie. Rejeter l'enseignement d'un côté, et rejeter la moralité en Christ de l'autre. On peut lire les passages pour que les uns et les autres soient à l'aise par rapport à cette logique d'apostasie théologique ou même d'apostasie morale. Tite 3, le verset 1. Et Tite 3, le verset 3. Tite 3, le verset 1. Tite 3, le verset 3. On continue pour noter, parce que vous avez lu tout ça d'affilée. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Matthieu 23, le verset 25 à 28. Matthieu 23, le verset 25 à 28. Romains 6, le verset 15 à 23. Et Romains 8, le verset 6 à 13. Je rappelle. Ésaïe 29, 13. Matthieu 23, le verset 25 à 28. Romains 6, le verset 15 à 23. Romains 8, le verset 6 à 13. Maintenant que vous avez noté les passages, lisez-les.
Tite 3, verset 1 dit: Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne. Tite 3, verset 3 dit encore: Car nous aussi, nous étions au fond insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Amen.
Amen.
Lisez les autres passages.
Ésaïe
29,
verset 13.
Il y a déjà Matthieu avant ou c'est après? Ok, Ésaïe, vas-y.
Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen.
Amen. Autre passage.
Matthieu 23, verset 23.
Attention, l'amphi est très concentré. Verset 28.
Oui. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli des produits de la rapine et de l'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord le dedans de la coupe pour que le dehors aussi devienne pur. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis, au dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins de semences, de mort et de pureté de toutes sortes. Ainsi, de vous, au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Amen.
Amen. J'aime ce passage. C'est l'un des passages les plus violents que Jésus-Christ utilise pour qualifier l'hypocrisie dans la marche avec Dieu. Vous me voyez, je dis souvent les choses, si vous riez, mais je suis sérieux. Vous croyez que les gens sont saints parce qu'ils ont les toges, les soutanes, avec les gros chapeaux, et puis ils sont très concentrés dans la marche comme ça, ils marchent droit comme ça, et c'est ça qui montre qu'ils sont des saints. La parole est claire. Des sépulcres blanchis, à l'extérieur c'est beau, dedans c'est pourri et laid. Au lieu que les gens soient beaux de l'intérieur, prioritairement, essentiellement, ils s'arrangent à paraître et ne sont pas. Il ne faut pas paraître, il faut être. Tout est d'abord dans l'être. Amen. Vous jouez au sein. Quand vous jouez au sein, il y a de quoi perdre même les interprètes chez le Bassa. Chez le Bassa et le français, quand même, ils ne s'entendent pas toujours. C'est pourquoi et les Bambouliers que j'aime les chercher. Mais un évangéliste était en train d'enseigner quelque part, il dit que seuls les saints vont au ciel. Il y a l'interprète de ça qui a dit que Dirmé, il m'a tiré, il m'a rendu. C'est-à-dire que seuls les saints qui tiennent debout iront au ciel. Il s'était égaré totalement. C'est-à-dire que l'évangéliste a dit un truc en français. L'interprète a dit autre chose en bas. Donc. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la relation à Christ. Quelque chose de très simple. Que quand vous venez, vous avez un problème de santé, j'ai la grâce, en tant qu'instrument de guérison, instrument de guerre, de délivrance, d'engager la guerre contre vos ennemis. Mais ça ne change pas un problème qui est fondamental. C'est que quelle est votre propre marche? Quelle est votre propre démarche? Quel est le contenu que vous avez commencé à donner à la marche avec Christ? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous tenez? C'est même pourquoi quand on met la sécurité sur vous, ça ne peut pas tenir plus longtemps que 3 jours. L'Esprit Saint connaît l'homme depuis. Parce que qu'est-ce qu'ils ont comme mentalité? Ils sont très nombreux à venir, ils sont envoûtés, possédés, bloqués et tout ce qu'il y a à voir avec. Mais ils viennent chercher une formule magique. Ce n'est pas parce qu'ils ont regardé Astérix et Obélix. Non. C'est qu'ils sont dans la culture de la paresse, de l'ignorance de la marche avec Dieu, de la logique de partenariat avec Dieu. Ils viennent. Ils ont l'habitude d'aller chez le marabout. Le marabout va lui donner le jujube, la feuille de mangue, l'écorce de ceci. Hein? Tu trempes ça, tu tournes, tu fais la poudre et tout ça. Et puis ça va donner. Or, Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu entier, c'est un Dieu de vérité. Il n'y a pas de vérité dans les formules magiques. C'est un Dieu d'amour. Dans l'amour, il y a la relation, il y a la communication, il y a la cohabitation. Il y a la coopération, il y a le partenariat. Quelle est ta part? Heureusement que certains ont la grâce que parfois ils vont chez les marabouts. Les marabouts leur disent certaines vérités. Je connais l'histoire d'une femme qui bavardait que elle énervait trop son mari. Elle avait la mauvaise bouche. Et quand elle commençait à parler, pour elle, il n'y avait pas le frein. Et comme son mari ne savait pas comment manager la chose, il a tapé. Je vous préviens, les garçons et les hommes, taper sur une femme, c'est une malédiction. Non, je règle d'abord ça. Pour allumer vos cerveaux, là. Parce qu'il y a un malade mental ici. Qui pense qu'il peut taper sur une femme. Il dit que c'est une malédiction. Tu tapes une femme qu'on t'a vendue. Oui, Didier. La femme là, elle énerve trop son mari à cause du bavardage. Elle commence à être une telle mauvaise objet. Elles ont des démons, elles ont des ténèbres jouées seulement à sa tête. Il lui inspirait toutes les saloperies qu'il ne faut pas dire à un homme. Elle s'en va chez un marabout. Le marabout lui donne une écorce de manguier. Et il dit que chaque fois que ton mari se met, parce que j'ai dit souvent certaines choses ici, vous croyez que je blague. C'est les femmes qui ont appris aux hommes à bavarder. Je vous dis, oh, il y a des gens ici qui ont plus de 50 ans, ils peuvent comprendre de quoi je parle. Il y a seulement 30 ans, les hommes ne parlaient pas dans ce pays-ci. C'était des gens, l'homme ne parlait pas. L'éducation de l'homme est qu'il consomme, il digère, il réfléchit, il parle avec sagesse, il dit juste les choses. Et la crise économique a frappé le Cameroun. Les hommes ont commencé à rester au Cameroun, à la maison. Ils ont commencé à faire les challenges avec les femmes. L'entraînement s'est bien passé, les hommes ont aussi commencé à être le bavardage. Les hommes, c'était compliqué. Qui est un homme, ça se gère par le coup de poing. Toum, 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 toum. Quand c'est fini, même on dit que les gars, calmez-vous, saluez-vous, allez boire la bière. Ils se calment. Ils sont devenus comme des femmes. Bavardage, c'est que tu vois un homme qui se tient en route pour insulter quelqu'un. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmelettes. La femme là, le marabout, chez qui elle est allée, elle a eu la grâce que le marabout là, l'Esprit Saint l'avait touché un moment. Parce que les marabouts sont les instruments des diables. Donc au moins parce que Dieu avait un plan sur la femme là. Là où elle est allée, il allait intervenir. Le marabout a donné une écorce à la femme là. Que chaque fois que ton mari t'insulte, il dit toutes les mauvaises choses. Parce qu'elle avait tellement l'habitude de choquer l'homme là, que quand il rentrait le soir, il avait envie de te déchirer sur elle. Et il disait toutes les choses. Quand tu sens que tu vas parler, prends l'écorce, tu serres dans la bouche. Tiens, elle va les serrer. Tu vas les serrer. Tu vas les serrer la bouche. Tiens, ne parle pas. Tiens. Au bout de quelques semaines, le monsieur a changé totalement de comportement. Pourquoi? Il n'avait plus personne pour répondre. Parce qu'avant là, deux temps, tant que tu as commencé à A, elle a déjà dit D. Dès que tu dis C, elle est arrivée à Z. Ça énervait le gars. Quand elle est revenue, dit au marabout que vraiment, ton affaire là marche. Vraiment, ça c'est bien. L'écorce là est puissant. Le marabout a dit que non. En fait, quand tu es venu ici, les esprits m'ont dit que tu bavardes trop. Tout le problème que tu es dans le foyer là, c'est le bavardage. Tu ne sais pas la fermer. C'est pour ça qu'elle demandait qu'il n'y a rien dans l'écorce là. C'est une écorce normale de manier qui était donnée. Donc la leçon que tu dois retenir, c'est de la fermer. C'est ce que les esprits m'ont montré. Tu bavardes trop. Dès que ton mari a commencé, c'est quoi? Hein? Je ne suis pas fort. C'est ce que les esprits m'ont dit que montre-lui comment fermer la bouche. Donc il faut quand même comprendre que vous avez votre travail. Et c'est autant de petites choses. Il y a la dimension spirituelle. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous lisez la parole? Est-ce que vous êtes des personnes qui ont compris le pardon? Est-ce que vous avez compris l'importance du jeûne? Il y a des gens ici, si je veux les attrister un dimanche, je dis jeûne jusqu'à midi. Tout le monde devient mon ennemi. On le regarde comme ça, les yeux noirs. Non, l'envoyé n'aime pas notre bien. Elle veut dire que le petit déjeuner là, je dois laisser ça. Faites attention, quand jeûner devient pénible pour vous, c'est que vous êtes en danger. Quand vous avez, quand quelqu'un jeûne, il doit se laver, être nyanga, bien parfumé. Quand on te regarde, il est écrit sur ton front, d'être confiant, ton comportement, sur ton front. Je jeûne malgré moi. Je jeûne malgré moi. J'ai été puni par le jeûne. Sauvez-moi. Quand tu es comme ça, ton jeûne au ciel, ça fait zéro. C'est bien écrit, hein? Je vous dis réel. On écrit jeûne non validé pour mauvais état d'esprit et mauvais cœur. Et dans ton dossier, sous le buvet gêné, il y a d'autres. C'est quand même le jeûne alors que tous les satans et les satanistes se mettent sur leur route. Ils ne comprennent pas. Quand on dit qu'il faut écouter un enseignement, voilà les enseignements qu'on a mis sur Internet, disponibles, on peut télécharger, on peut écouter. Certains, ils utilisent les enseignements comme somnifères. Dès que la partie, alléluia, gloire à Dieu. Il est parti. Donc l'esprit, c'est même content de savoir que tu as décidé d'écouter sa parole, ses enseignements. Après, il te regarde, tu dors. Tu veux faire comme ça? Naya! Ah, Dieu! Je croyais que j'allais la sauver par ici. Parce que Dieu est toujours en train de chercher par où il peut nous sauver. Parce qu'on a plein de modules. C'est vraiment l'école. Quelle est ta part dans cette affaire? Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu as fait? Patience, tu n'as pas. Persévérance, on ne te connaît pas. Obéissance à la parole même tu connais, je ne sais pas. Parce que pour obéir à la parole, il faut même la connaître. L'amour, ton cœur est dur comme une pierre. La foi, tu ne sais pas faire confiance à Dieu. Tu n'as pas confiance de ce qui marche avec toi. Prie, tu n'aimes pas la prière. Quand tu lis les cinq psaumes là, tu les lis même vite en sautant certaines phrases. C'est vraiment. Les psaumes là, c'est une punition. Jusqu'à cinq psaumes est envoyé. Et il y a d'autres qui me demandent que chaque fois il faut lire ça. Regardez comment vos mentalités sortent. Et je vous connais. Vous ne le savez pas. Souvent quand vous me posez des questions, je ris dans mon cœur. Le Seigneur me dit que regarde, tu veux l'aider comment? Regarde. Il y a des gens qui m'appellent spécialement pour ça. En vrai, je voulais demander. Les psaumes là, c'est pour lire chaque fois. 6 heures, je lis. 12 heures, je lis. 12 heures, 18 heures, je lis. Mais lui, j'ai tellement entendu dire ça. Vous voyez comment c'est compliqué de vous aider. Vous avez la mauvaise foi dans votre relation personnelle avec Dieu. Et vous êtes là, vous ne vous connaissez pas aujourd'hui. Je vous connais. Je vous regarde seulement. Hein. Est-ce que vous pouvez savoir? Ça fait des mois, je n'ai jamais parlé de ça. Oh, moi, ça fait partie de mon quotidien. Je vous connais. C'est ça que moi, vous faites. Certains, ils lisent souvent. Ils lisent vite. Ils pensent, oh, 51. Ok. Voilà. On finit maintenant. La partie, on dit que prier pour. Les autres inconnus, priez pour les inconnus. Ah, je connais personne. Je prie pour personne. Bon, les membres de la famille, ma mère m'énerve, mon père m'énerve. Je peux pas prier. Allez, on passe. Ils délivrent. Et que la prière est structurée. Les 10 points sont donnés là. Ils sautent 1 point, 2, 3. Donc finalement, tu es 10 points. Ils ont sauté 7. Je vais avoir ça. Comment j'ai fini de prier? On écrit encore sur ton bulletin aussi à l'endroit là. Prière non validée pour mauvaise foi et mauvais cœur. D'autres prient dans les positions les plus inconfortables. Comment il faut qu'on parle de vos calades. Ils se mettent à genoux, ils n'aiment pas se mettre à genoux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, mon genou. La voix est là. Oh. Il me maudit d'abord par un autre père. Il n'a pas encore fait le tiers d'un autre père. Il a pensé à la voix est là. Oh. Qui a dit que le programme vient de Dieu? C'est lui qui a conçu ça. Comme il est le doctorat, il démarre déjà. Oh. Oh. Ok. J'en étais même ouf de notre père. Pareil. Difficile à aider. Il faut que vous fassiez très attention. Quand on parle d'un sujet aussi grave que l'apostasie, vous devez faire justement le point sur les choses comme ça. Qu'est-ce qui vous éloigne souvent de Dieu dans des choses aussi simples? On a vos dossiers. Si je laisse certains comportements, il reste seulement sur la relation, les axes principaux de relation avec Dieu. Je vous attrape. Vous priez comment? Vous jeûnez comment? Quelle est votre appropriation de la parole? Des choses simples. Le cœur où on dit qu'il faut pardonner, vous ne voulez pas pardonner, vous voulez être pardonné. On demande de croire en Dieu. On vous trouve toujours dans des postures bizarres. Mon frère, c'est comment? Ah, je suis debout. C'est comment, gars?
On est la garde. En poussement, on est la calme.
Mon frère, comment ça, ta semaine s'est passée? Gars, je suis foiré à un niveau. Un foirage, il ne dit pas son nom. Mais c'est parce que tu es dans une posture où quand les grâces descendent, tu dis que tu reçois, mais tu ne fais rien. Tu n'as pas le catalyseur qui permet de matérialiser les grâces. Vous tous ici, je vous dis ça pour ouvrir vos yeux. Vos grâces sont disponibles. Elles sont descendues déjà dans vos esprits. C'est là. Mais comme il y a une ingénierie dans les choses spirituelles, Dieu ne sait pas tricher et il ne triche pas à lui. Il faut que le catalyseur vienne de vous. C'est où? Le cœur. Quel est le cœur que vous avez? Votre comportement. Vos pensées. Il y a des gens qui sont, d'une jalousie chronique. Même ici, il y a des gens qui en veulent aux autres juste parce qu'elle est bien habillée. Elle ne savait pas comment tu t'appelles. La fille là. Elle s'habille toujours bien, elle prend encore poids. Regarde sa coiffure. Regarde la coiffure là dans sa pensée, ce n'est pas une insulte. Hein. C'est que pourquoi elle est bien coiffée? Moi, je dis, moi, ça ne donne jamais bien chez moi. Oui, mais quand on te dit de bien te mettre, est-ce que ça demande d'aller acheter les choses chères? Il y a plein de femmes ici dehors qui sont toujours bien nyanga. Elles achètent leurs trucs à se périr. Elles lavent ça bien, elles repassent bien. Et elles savent agencer les couleurs. Ça, tu t'habilles comme les anglophones de l'autre temps. On te voit le vert, rouge, bleu. Si tu veux que ça donne sur toi. Et quand tu veux faire une coiffure, la coiffure là, ressemble à un démon. Mais il y a souvent des femmes qui font les trucs. Il faut qu'elles se mirent un peu. Tu te regardes, demande-toi, je dis. Hein, toi, moi, là, qui nous ressemblons dans le miroir, est-ce qu'on ressemble à des gens qui doivent se présenter devant les gens? Hein? Je ne peux pas vous louper. Ma fille, continue la lecture. Tu t'es levé pour ça. Lis le passage là.
Romains chapitre 6, verset 15 à 23. Quoi donc? Pécherions-nous? Parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Je demande de méditer sur Romains 6, le verset 15 à 23. On vous allez lire vous-même après Romains 8, le verset 6 à 13. La Bible émet des pressants avertissements contre l'apostasie, afin de nous mettre en danger, en garde contre le danger mortel d'abandonner notre union à Christ et à nous encourager à persévérer dans la foi et l'obéissance. Le dessein divin de ces passages ne doit pas être sous-estimé en nourrissant le point de vue selon lequel ces avertissements sont réels, mais que la possibilité d'une véritable apostasie ne l'est pas. Au contraire, nous devons percevoir ces avertissements comme s'appliquant à la réalité de notre période probatoire. Et nous devons les considérer comme de sérieuses mises en garde si nous voulons atteindre le salut final. Voici quelques-uns des nombreux passages bibliques qui émettent des avertissements. Vous avez Matthieu 24, le verset 4 à 5, ainsi que les versets 11 à 13. J'ai dit Matthieu 24, le verset 4 à 5, ainsi que les versets 11 à 13. Vous avez Jean 15, le verset 1 à 6. Jean 15, le verset 1 à 6. Vous avez Acte 11, le verset 21 à 23. Acte 11, le verset 21 à 23. Vous avez Acte 14, le verset 21 à 22. Vous avez 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Acte 14, verset 21 à 22. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Colossiens 1, le verset 21 à 23. Tite 4, 1. Ainsi que le verset 16. Si vous ne trouvez pas 4 de Tite, vous allez prendre le 3. Parce qu'il y a des versions de Bible et c'est un peu difficile. Je vous donne quelques versets pour que vous compreniez la logique d'avertissement par rapport à l'apostasie. Ainsi que Hébreux 2, le verset 1 à 3. Je demande à ce que vous lisiez Matthieu 24, le verset 4 à 5, ainsi que 11 à 13, Jean 15, le verset 1 à 6, et Acte 11, le verset 21 à 23. Il y a en fait beaucoup de passages, ce n'est que quelques-uns que j'ai lus, que je vous ai donnés. Il y a encore un bon nombre que je n'ai pas donné.
Matthieu 24, verset 4 à 5.
Oui.
Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront pour mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. » Amen.
Amen. Le 11 à 13, toujours de Matthieu 24.
Matthieu 24, de 11 à 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se reproduira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen.
Amen. Est-ce que vous avez lu Jean 15, de 1 à 6?
Jean 15, verset 1 à 6 dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les mange, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen.
Est-ce que vous pouvez lire Acte 11, verset 21 à 23?
Acte 11, verset 21 à 23. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes purent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen.
Amen. Vous trouverez des exemples d'apostasie véritable dans Exode 32. On ne va pas lire Exode 32, vous allez lire ça vous-même. Exode 32. Et 2 Rois 17, le verset 7 à 23. Ça aussi, c'est à lire pour vous-même là-bas. Ainsi que le psaume 106, lorsque vous allez examiner le passage, les passages qui sont donnés. J'ai donné quelques références, on ne va pas lire ici. Exode 32. 2 Rois, le verset 17. 2 Rois 17. Chapitre 17, le verset 7 à 23, et le psaume 106. Mais on va lire Ésaïe 1, le verset 2 à 4. Ésaïe 1, le verset 2 à 4. Jérémie 2, le verset 1 à 9. Ésaïe 1, le verset 2 à 4. Jérémie 2, le verset 1 à 9. Acte 1, le verset 25. Et Galates 5, le verset 4. Ésaïe 1, le verset 2 à 4, Jérémie 2, le verset 1 à 9, Acte 1, le verset 25 et Galates 5, le verset 4.
Ésaïe 1, verset 2 à 4. Cieux,
écoutez, terre, prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, ton peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Amen.
Est-ce que vous avez Jérémie 2, le verset 1 à 9?
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était le prémisse de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous tous, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de Nien et n'être eux-mêmes que Nien? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verge, pour que vous en mangiez le fruit et la meilleure production. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel, je veux contester avec les enfants de mon enfant. Amen.
Ce sont des exemples d'apostasie, d'éloignement, n'est-ce pas, de Dieu, qui sont lus. On va pas lire ce qui suit. Il y a donc quelque chose d'important, au-delà des exemples, n'est-ce pas, qu'on vous a donné concernant l'apostasie, des exemples d'apostasie véritable dans la parole. Pour en savoir plus sur l'apostasie, il doit avoir lieu au sein de l'Église professante dans les derniers jours qui va avoir lieu. On va vous donner un enseignement ici sur l'âge de l'Antéchrist. On reviendra là-dessus. Voici les étapes qui conduisent à l'apostasie. Premièrement, les croyants par incrédulité ne prennent pas au sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. Ça, c'est la première étape qui mène à l'apostasie. Quand on vous enseigne et que vous ne preniez pas au sérieux les enseignements, vous commencez à vous éloigner de Dieu. Directement, vous en avez conscience ou pas. Les passages qui permettent d'en avoir conscience sont Marc 1, le verset 15, Luc 8, le verset 13. J'ai dit Marc 1, le verset 15, Luc 8, le verset 13, Jean 5, le verset 44, le verset 47 et Jean 8, le verset 42. 6. Marc 1, le verset 15. Luc 8, le verset 13. Jean 5, le verset 44, 47. Jean 8, le verset 36. Je passe. Au fur et à mesure que les réalités de ce monde prennent le dessus, ça c'est la deuxième étape qui mène à l'apostasie, prennent le dessus sur les réalités du royaume céleste de Dieu, les croyants cessent petit à petit à s'approcher de Dieu et de Christ. La parole en parle dans Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 7, le verset 19, ainsi que le verset 25, et Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 4, le verset 16, Hébreux 7, le verset 19, et le verset 25, Hébreux 11, le verset 6. Troisième étape qui mène à l'apostasie. Victimes de la tromperie du péché, ils en viennent à le tolérer et de plus en plus dans leur vie, ils le tolèrent. Ils n'ont dorénavant plus l'amour de la justice, ni la haine du mal. Il y a quelque chose dans la marche avec Dieu. Ces deux extrémités doivent être lisibles chez un croyant. On doit avoir la haine de l'injustice, la haine du mal. Et on doit aimer la justice, aimer le bien. Ce n'est pas que tu aimes le bien en aimant l'injustice. Ce n'est pas possible. Si tu aimes le bien, si tu aimes la justice, tu ne peux pas de la même manière aimer l'injustice. L'injustice doit te révéler. Elle doit t'outrer. Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas compris. Elle doit te outrer. Elle doit te scandaliser. C'est ce que je voulais dire. Il y en a qui risquent de dire que l'envoyé a créé le verbe toutrer. Donc, c'est important de comprendre cette posture. Maintenant, quatrième niveau qui mène, n'est-ce pas, à l'apostasie. À cause de l'endurcissement du cœur, de leur cœur, et du rejet des voix de Dieu, ils ne tiennent pas compte de la voix incessante de l'Esprit de Dieu, ni de ses reproches. Et ça encore, la parole en parle dans Hébreux 3, le verset 8, ainsi que Hébreux 3, le verset 13, Hébreux 3, le verset 10, Éphésiens 4, le verset 30, 1 Thessaloniciens 1, le verset 19 à 22. Hébreux 3, le verset 8, ainsi que le verset 13, Hébreux 3, le verset 10, Éphésiens 4, le verset 3, 1 Thessaloniciens 1, le verset 19 à 22. Voilà les quatre éléments qui mènent à l'apostasie personnelle. Et il faut en prendre conscience et s'en méfier cordialement. Le cinquième élément, le Saint-Esprit est attristé. Dès que le Saint-Esprit est attristé, il n'agit plus. Il dit que vraiment, je me bats même pour qui? Je travaille avec qui là-bas? Mieux, je laisse. Il y a des ministères comme ça, on connaît ce genre d'histoire, où le pasteur dit tout ce qu'il faut dire. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit tout ce qu'il faut dire. Mais l'Esprit Saint n'agit pas là-bas. Il n'est pas un faux pasteur. L'Esprit Saint n'agit pas parce que soit le pasteur a un comportement qui attriste l'Esprit Saint, et c'est le cas très fréquent, soit la communauté est en train d'attrister l'Esprit Saint, ça a fini par cuire. Au lieu qu'on voit la foi du peuple grandir, on la voit plutôt décroître. Au lieu qu'on voit des gens qui luttent contre le péché, on voit qu'ils s'attachent au péché et sont véritablement dans l'apostasie. Quand ça arrive à ce stade, l'Esprit Saint est fatigué. Vraiment, rallumer la flamme là est difficile. Ça demande vraiment un retournement. Quand je parle de retournement, certains ont un langage qu'ils entendent souvent sans comprendre bien ce que ça veut dire. On parle de se confesser. La confession ne vaut rien si le cœur n'y est pas. Comme le jeûne et la prière ne valent rien si le cœur n'y est pas. Si vous priez, vous jeûnez, le cœur n'y est pas, ça vaut rien. Vous avez prié pour une toune. Jeûner pendant 300 jours. Ça vous regarde. L'Esprit Saint va dire, niet, rien. On n'est pas ensemble. Donc, on parle de quoi? De confession. Vous entendez souvent ça. On parle de repentance. Vous entendez souvent ça. Mais ce qui est intéressant après la repentance, c'est la conversion. Le déplacement de centre de gravité. Vous changez de centre d'intérêt dans votre vie. Si vous voulez vraiment que Dieu fasse quelque chose pour vous, convertissez-vous sincèrement. Repentez-vous franchement. Ce n'est pas les larmes de crocodile. Que quand vous dites à Dieu que vraiment il te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis et tout ce que j'ai fait, tu cites tous les péchés là. Tu es sincère. C'est pas que tu cites ça en disant que toi tu sais que je vais rentrer et faire ça après, non? Toi tu sais que vraiment, je te demande seulement pardon, mais tu sais que je ne peux pas encore résister, hein? Tu sais que vraiment, Dans ton cœur, c'est ce que tu es en train de penser. Si vous voulez vraiment avancer vite, chaque chose que vous voulez faire en Dieu, demandez à l'Esprit Saint de vous aider à la faire. J'explique. Demandez à Dieu expressément dans la prière de vous montrer la direction. Demandez à Dieu expressément dans la prière de vous montrer comment lui plaire. Demandez à Dieu expressément dans la prière de vous montrer comment prier. Demandez-lui comment pratiquer ses préceptes. Demandez-lui comment pratiquer l'amour. Demandez-lui comment pratiquer le fruit de l'esprit. Vous connaissez le fruit, les fruits de l'esprit. Demandez-lui de vous aider à combattre de la manière la plus radicale les œuvres de la chair. Demandez. Parce que si vous voulez avoir des choses sans avoir passé l'examen qui est essentiel, celui de l'amélioration permanente de votre relation à Dieu. Parce que ce qui vient d'être dit a déjà été dit déjà aussi ce matin. C'est-à-dire c'est le partenariat, la coopération, la collaboration, la communion avec Christ. Qu'il est prioritaire sur tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien avoir sans être passé par là. Puisque ce n'est que cela qui produit les fruits de ce que vous appelez bonheur, joie, prospérité, fertilité et abondance matérielle et financière. Qui vous a dit que même quand quelqu'un est milliardaire ou multimilliardaire, il va donner l'argent comme ça sans que les gens aient travaillé? Vous connaissez un milliardaire, un multimilliardaire qui se tient au milieu du carrefour, il se met au carrefour de côté. Il dit, je suis milliardaire. Que tous ceux qui passent ici en deux côtés prennent 10 000 chacun et je verse les... C'est pas possible. Il faut travailler pour avoir le salaire. Le salaire chez Dieu, c'est d'abord le salut, dans tout ce que veut dire le salut, et tout l'héritage. Payer le prix, travailler. Si ça blesse, il n'y a pas de problème, le sang ne coule pas. Il faut que vous entrez pleinement dans cette compréhension des choses. Nous continuons. Au niveau où l'Esprit Saint a attristé, vous avez Éphésiens 4, le verset 30 qui en dit, en parle. Hébreux 3, le verset 7 à 8 qui en parle aussi. Puis il est éteint. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Son temple est profané. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Et il finira par abandonner l'ancien croyant. Juges 16, le verset 20. Psaume 51, le verset 14. Romains 8, le verset 13. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, et Hébreux 3, verset 14, parle de la cinquième dimension de l'apostasie, qui est la phase terminale. Lorsque l'Esprit Saint est attristé, il s'éteint, il se retire. J'ai donné les passages. Éphésiens 4, 30, Hébreux 3, le verset 7 à 8, 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, 1 Corinthiens 3, le verset 16, Juge 16, 20, Psaume 51, le verset 14, Romains 8, le verset 13, 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17 et Hébreux 3, le verset 14. Autre élément maintenant, si l'apostasie poursuit impunément sa course, les individus peuvent éventuellement atteindre un point de non-retour. Et ça, c'est possible. Ça, c'est très fréquent. Tu t'éloignes de Dieu, c'est parce que tu ne sais plus comment on rentre là-bas. Là, c'est très, très grave. Là, tu es en plein enfer. Les gens vous parlent de quoi? L'enfer, ce n'est pas après la vie. C'est d'abord pendant la vie et ensuite après, lorsque tu as échoué aux examens. Il y en a, on leur montre les visions, ils ont échoué aux examens, ils ne comprennent pas. En vrai, j'ai eu une vision, tu ne comprends pas, hein? Que j'ai eu la sous-moyenne. Mais tu as échoué aux examens. L'Esprit Saint te dit que ton niveau n'est pas bon. Recommence. Recommence, cherche le salut. Si l'apostasie poursuit dans son chemin, n'est-ce pas? On a ce problème-là. Le fait que les gens puissent arriver au point de non-retour. Ceux qui ont déjà vécu l'expérience du salut avec Christ, mais qui délibérément, sans cesse, endurcissent leur cœur à la voix de l'Esprit Saint, qui continuent volontairement de pécher et qui refusent de se repentir, de revenir à Dieu, peuvent atteindre un point de non-retour où la repentance et le salut ne sont dès lors plus possibles. Je vous ai dit quelque chose ici. L'enseignement sur le cœur disait quoi? Quand vous commencez à refuser d'écouter la parole, vous arrivez à un stade où Dieu lui-même endurcit votre cœur. Et quand Dieu endurcit votre cœur, c'est pour une intention. Il veut vous punir. Et que là, c'est un très mauvais virage. Vous devenez insensible à l'Esprit Saint. Donc il est très dangereux parce que la parole le dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est extrêmement dangereux de ne pas écouter la parole et d'investir dans le péché. On t'a déjà dit que ne fais pas telle chose. Arrête avec la colère, tu dis 40 ans, on te dérange. Laisse les femmes de voisins et tout le reste, tu dis 40 ans. L'autre dit, le mari du tout-tout est sucré, non? On dit que laisse avec la jalousie, tu es trop jalouse, ah quoi? Tu me diras, elle entend clairement, hein? Dieu lui parle. Il y en a qui ont le mauvais cœur sur les femmes des autres. Des femmes, hein, pas des hommes. Quand elles voient la femme de l'autre passer, elles disent que regarde-moi le machin là. Tu insultes la femme de Troy, vous avez un problème, non. Elle a pris ta place. Il y a d'autres qui n'ont pas compris et ils n'ont jamais compris l'affaire qu'on appelle le pardon. Ils ne veulent pas pardonner. On dit à d'autres que laisse la cigarette, ils ne veulent pas lâcher. Laisse la pornographie, parce qu'elle est toujours là concentrée sur les films pornographiques, très concentrée. Le sommeil ne l'attrape jamais, à 3h, tu le trouves dessus. Non, pas minute, 2h, 3h, 1h, il y a des programmes spéciaux qui commencent à 23h, ça finit à 3h, il est toujours concentré dessus. Et certains ont des enfants, à cause de ça, j'ai vu, ce n'est pas comme à raconter, tu vois un bébé de quelques mois qui fait des gestes parce qu'il imite ce qu'il a vu. Bébé, il n'a pas un an. À cause de ce que les adultes dans l'environnement sont pollués. Et ils ont pollué jusqu'au bébé qui ne comprend pas. Lui aussi, il a vu des gestes. Lui aussi, il fait avec la couche. Quand on dit laisse la cigarette et tu ne veux pas laisser la cigarette, ce n'est pas que tes poumons que tu détruis. Tu détruis les poumons de tous ceux qui vivent avec toi. On dit que laisse l'alcool, toi là, si ce n'est pas que tu bois le Billy Billy du matin au soir. J'ai entendu des enfants ici dans le voisinage qui aiment beaucoup boire. Je leur demande hier matin que mes garçons, qu'est-ce que vous faites à la boisson à 10h? Non vraiment, papa, ça me dit qu'on a trop bu hier, c'est le mal qui traite le mal. Donc en fait, on est en train de boire pour atténuer le mal d'hier. Hier, comme on a trop bu, on calme ça, on sort par une bouteille de bière. Quand le diable vous tient, vous avez des arguments, hein, pour justifier vos bêtises. C'est le mal qui traite le mal, non? Faut avoir une petite bière là pour. Comme hier, là, on a trop bu. Et ça allait être très cohérent dans l'esprit de l'ignorant. Lorsque vous vous êtes attaché au péché, vous ne vous repentez pas. Vous êtes volontairement ancré dans le péché. Vous arrivez à ce point de non-retour. Hébreux 3, le verset 1 à 19, en fait. 7 à 19 en fait état. Hébreux 3, le verset 7 à 19. Hébreux 10, le verset 26 en fait aussi état. Hébreux 6, le verset 4 à 6 en parle. Ainsi que Deutéronome 29, le verset 18 à 21. Donc il y a une limite à la patience divine. Méfiez-vous. Je vous dis ça d'un point de vue purement technique et didactique. Il y a un temps de grâce. La grâce que Dieu vous accorde en temps, dans chacune de vos vies. Et parce que vous ne comprenez pas souvent, certaines choses que vous faisiez avant, vous refaites les mêmes choses, vous commencez à être puni. Tu sais, Naya, avant je pouvais faire certaines choses, non. Il y avait un gars, je me rappelle ce garçon-là. Lui, il ne draguait une femme que quand il voyait qu'elle était enceinte. Il n'a pas su que le temps de la grâce est fini. Il est allé comme ça, il est mort. Et que tu vois comment le diable tient quelqu'un à des niveaux incroyables. Donc, lui, c'est quand il voit que le secteur est occupé qu'il s'est investi sur la question. De la même manière qu'il y a certaines femmes ici que si tu n'es pas marié, tu n'es pas un bon gars. Le bon gars doit être le mari d'autrui. Elle, là, si tu commets le rêve de lui dire que comme tu me vois, je suis célibataire, je cherche ma femme à aller là, tu es mauvais. Go for she don't. Elle veut seulement le mari d'autrui. Ce sont les malédictions que les gens attrapent. Oui, tu fais ça pendant un temps. Dieu t'envoie des alertes. Il envoie des alertes. Il te les donne de plein de façons. Il te parle. Puisque Dieu vous parle, que vous le veuillez ou pas, il vous parle. Il dit arrête ça. Chaque fois, tu as des arguments, tu rebondis. Tu as des arguments, tu. Même quand Dieu établit une barrière haute comme ça, tu sautes la barrière. Tu atterris de l'autre côté. Il y a quoi? Le temps la passe. Et la patience de Dieu, quand elle prend fin, il te livre tout simplement à tes ennemis. Parce qu'avant, il te défendait. Tu pouvais attraper le sida ici. Il empêche que le virus entre. Tu pouvais attraper la gonococcie là-bas. Il empêche. Tu pouvais arriver ici, un démon entre. Il empêche que le démon... Parce qu'il veut que tu te ressaisisses. Le bout d'un certain temps, là, dis donc. Il laisse. Tout ce qui ne pouvait pas entrer en vent commence à entrer. Tu retrouves à avoir le corps qui vibre comme ça. Tu as l'épilepsie qu'on ne comprend pas. Viens voir l'envoyer, envoyer. J'ai les vibrations dans le bas-ventre d'un autre niveau. Quelle vibration? Il y a les serpents qui jouent au tchatchamiringue là-bas dans le bas-ventre. Tu as eu ça l'autre fois. Quand on a dit de fermer, toi tu as ouvert. Et ça fait longtemps qu'on te parle. Vous devez savoir que le diable vous tient par là, mais Dieu lui est patient. Mais vous n'avez aucune chance. L'être humain n'a pas l'information là de savoir quand Dieu va se fatiguer. Donc il vaut mieux ne pas le tenter. Quand Dieu commence à insister sur un couloir, quitte de là, quitte de là, quitte de là, quitte de là, quitte de là. Laisse. Il y a d'autres, c'est sur la nourriture, le diable les tient. Il doit toujours manger au moins pour la part de trois personnes. C'est que ce n'est pas eux. Quand il s'assoit là, il tombe seulement l'éléphant. C'est comme ça qu'il a un gros Dieu. Personne dans la maison ne veut venir manger à côté de lui. C'est Dieu tourné comme ça, mais qui commence à venir chercher ma nourriture. C'est le péché. Les excès de ta vie, on a parlé de ça ici. C'est comment avec toi? Tu vas manger pour une personne? Dieu ne fait qu'insister que laisse l'affaire là, laisse l'affaire là. Laisse l'affaire, laisse. Mange pour une personne. Comment même pas manger pour une demi-fille du caride? Tu es fou. Tu demandes à Dieu que tu es fou. Oui, mais j'ai l'argent, non. Mais ça va, j'ai l'argent. Il y a des gens, ils sentent qu'ils sont grands parce qu'ils ont, ils sont enceintes. Pardon, enceintes. Tu vois un homme, il est ici, son ventre là-bas devant, ils arrivent. Moi, je me rappelle, non, enfin, quand on avait les gens comme ça, quand on dit, on, ils arrivent, qui? Le prof et son ventre. Il arrive, nan, 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 nan. Et quand quelqu'un a le ventre comme ça, il est obligé de mettre les vestes Kabamundo. Mais puisque le ventre t'oblige à changer, tu ne peux pas porter une veste normale. Tu dois mettre la veste Kabamundo. Tu ne peux pas être comme ça. Comme moi, je suis comme ça là. Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes, c'est la bière que tu veux voir boire. Elle considère qu'elle a bu quand c'est au moins un casier qui est descendu. Un casier, c'est qu'elle bat les hommes en compétition. Quand elle s'assoit là, résultat, je ne sais pas si elle est enceinte ou si elle est enceinte. Parce que ça dépend du genre de grossesse qu'il y a dedans. Est-ce qu'elle est enceinte de bière, elle est enceinte de nourriture, ou bien c'est un bébé qu'il y a dedans? Et ça fait que, et c'est très grave, et certaines sont mariées, elles font souffrir leur mari. Quand ils t'épousaient, tu étais comme ça, non. Maintenant, tu es difforme. Quand ils te regardent comme ça, ils te demandent si tu es sa femme. Quand ils te lancent, parfois, quand ils font faire certains travaux, ils préfèrent les faire dans le noir pour ne pas être traumatisé. Oh, c'est comme ça que le péché est en train d'entrer. Parce que le gars est traumatisé, il commence à te chercher dehors, alors que c'est toi qui es dedans. Mais toi, dedans, il ne te reconnaît plus. Et regarde les gars que... Parce que c'est Marina que j'avais épousée là. Peut-être qu'elle a moi de profil, je suis inquiet. Si l'homme c'est un mangeur, c'est grave. Entre deux ventres, qui va alors être plus calme que qui? Ça se négocie même comment? Dans la gestion de l'affrontement. Je vous parle de vos dossiers. Parce qu'il faut avoir conscience de faire la guerre. Et je vais vous dire quelque chose. Que chacun d'entre vous fasse le bilan de sa vie. Il faut que chacun d'entre vous regarde que vraiment, ça c'est mauvais. Et je vous donne cet enseignement. Je ne veux pas oublier ça. L'une des choses qui conduit facilement à l'apostasie, c'est l'orgueil. Lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu, au lieu de se plier à chercher intimement que, ouais, comment je peux procéder pour bien faire ce que Dieu attend de moi, il se donne des justificatifs intérieurs. Ce n'est pas ce qu'il dit aux autres qui est terrible. C'est en plus ce qu'il pense fermement à lui qui est terrible. Il se justifie par une fausse sagesse Qu'importe. Oh, mais c'est pas moi, hein, ça c'est pas moi. Et puis non, mais ça c'est exagéré. J'ai seulement trois petites. Pourquoi me parle de fornication? Il y a une fille qui m'a traumatisé. Elle me dit que vraiment envoyé, j'ai seulement un gars. Le gars, là, Dieu te l'a donné. Non. Non, c'est des questions simples. Tu dis que tu as seulement un gars. Le gars, là, c'est ton mari que Dieu a donné. Non. Tu fais quoi là? Il faut que quelqu'un vous pose des questions. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Je ne pars pas loin. Quand tu dis que tu as seulement un gars, comparé aux autres qui ont les Mougou 1, Mougou 2, Mougou 3, Mougou 4 et Super Mougou. Pour toi, c'est seulement un. Donc, ce n'est pas si grave. Je pose pas deux questions. Une seule. Celui-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu fais quoi alors là? Tu te cherches. Demande à Dieu de chercher pour toi. Il va te donner. Vous ne pouvez pas changer les procédures. La tétité, ça ne sert à rien. Et c'est un orgueil vide qui n'a même pas de sens. Et il y a des gens qui aiment souvent se raconter de ces sottises. Et que ils ont des arguments pour justifier l'attachement au péché. Ah, que je vais manger comment? Ah, c'est lui qui me charge le téléphone. Ah, tu sais que c'est lui qui paye mon école. Ah, bon. Même quand tu as reconnu que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, tu es toujours en train de chercher les arguments. Mais tout ça va te gifler, on ne va pas te dire. Et tu n'as pas réalisé que tant que tu as eu le gars là, tu fais des cauchemars bizarres, on est toujours en train de te poursuivre. On te poursuit la nuit, il y a les lions qui te menacent, il y a les chiens, il y a les chats qui sont chez toi, il y a les serpents, etc. Mais le gars est possédé, lui-même n'est pas au courant de sa possession. Mais c'est ton gars, c'est ta référence, tu le préfères à Dieu. Parce que je ne sais pas, les femmes sont d'une tétutesse extraordinaire. Parce que le gars peut comprendre qu'on l'a frappé là, bim, il a peur, il dit que rien. Mais la femme, elle commence à chercher les arguments. Qu'il y a même quoi? Pourquoi il me dérange? On l'a envoyé chez moi. Une fille est venue ici une fois. Elle me dit que vraiment j'ai une vision. Parce que certains ont des visions, ils ne savent pas que les problèmes qu'ils posent, nous on connaît. J'ai une vision, vraiment, je faisais une épreuve. Hein. Et puis la deuxième partie de l'épreuve là, ça m'a dépassé. Hein. Elle est là assise en face de moi. Elle ne sait pas qu'il n'y a pas que moi. Nous sommes nombreux. On la regarde. Pendant qu'elle parle, l'esprit, elle me dit fornication. Bon, pour ne pas la brutaliser directement, je prends la route du dialogue. Il dit que ton gars là, tu l'as laissé. Elle dit, c'est vrai. Il est seulement là. Il est seulement pas fait avec un temps d'autre. Vous avez quelques parties de jambes en l'air. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il faut que tu saches qu'il veut t'utiliser. Et tant que tu refuses de rompre cette relation pour chercher véritablement ta relation personnelle avec lui, tu vas rester coincé. Et beaucoup ici ont ce genre de situation où ils refusent de faire le point. S'arrêter pour dire que bon, d'accord, c'est vrai que Dieu peut résoudre mes problèmes. Faisons donc d'abord ce que lui demande. Et regardons un peu où on va. Parce que je dois lui faire confiance. Ma foi veut dire que je fais confiance à Dieu. J'ai confiance en lui. Ne nous faites pas lire la parole de façon vaine. Ce n'est pas la théorie ici. Nous n'enseignons que pour la pratique. Si tu me dis que c'est Dieu qui t'a donné un gars, là ça commence à être intéressant. Parce que, un, je peux vérifier. Deux, si c'est Dieu qui t'a donné le gars là, il y a certaines options qui sont possibles. Parce que c'est vrai, c'est possible. Dieu peut te donner une femme. Et il arrange tout pour que les choses aillent dans le bon chemin. Comment savoir vous prier? Demandez à Dieu vos femmes. Vos maris, demandez. Et il va répondre. On peut vérifier. Dieu ne peut pas te donner une femme et toi seul tu es au courant. Un homme de Dieu ne peut pas vérifier. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te donner un mari. Il n'y a que toi qui as eu ça en vision. L'homme de Dieu ne peut pas vérifier. Ce n'est pas possible. L'homme de Dieu peut vérifier. Il demande. Dieu va lui dire. Il peut lui dire sur le champ. Dans certains cas, comme je ne peux pas prendre position, je dis laissez-moi vérifier. Mais une chose est sûre, Dieu va me dire. Maintenant, en fonction de tes dispositions et cœur, Dieu peut me dire, je vois que tu n'es pas prêt à entendre la vérité, d'avoir la salut. Parce que vous croyez que c'est le nombre d'enfants que vous avez, les gens qui résolvent le problème. Ce n'est pas un nombre d'enfants. J'ai déjà traité plein de cas comme ça. Tu arrives ici, tu me dis certaines choses, je te regarde. Tu es un homme, tu as 60 ans. 60. 6 fois 10, 60. Tous tes cheveux sont blancs. Tu viens là, tu t'assois devant moi. Dieu me dit que la femme avec qui tu as eu 5 enfants n'est pas ta femme. Ce n'est pas comme à raconter, c'est des cas que j'ai vécu. Vous avez comme vous rattrapez les rattrapages, vous pouvez rattraper. Parce que la question est de savoir pourquoi vous n'avez pas su qu'il fallait demander à Dieu avant. Parce que quoi? Tu es là avec ta femme. Vous êtes en train de divorcer. Votre vie est un cauchemar. Votre mariage est un enfer depuis 10 ans déjà. Vous êtes marié depuis 30 ans. Mais votre enfer, il a atteint un niveau de puissance depuis 10 ans. Et c'est après 30 ans d'enfer en réalité que Dieu te dit que ben, tu avais pensé que tu peux faire ta vie sans moi, non? Je veux te dire quand même que tu t'étais trompé avec tous les enfants que tu as avec là. La question que je veux poser à ce niveau pour que vous compreniez la démarche, c'est que qu'est-ce que vous pouvez faire sans Dieu? Donc, il faut répondre à la question de façon sincère. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans Dieu? Celui qui comprend qu'il ne peut rien faire sans Dieu ne peut pas se retrouver dans une position d'apostasie. Est-ce que vous comprenez ce que je vous donne comme élément? Celui qui comprend qu'il ne lui est pas possible de faire quoi que ce soit sans Dieu ne peut pas s'éloigner de Christ. Parce qu'il a conscience de ce que n'importe comment l'affaire là. Dès que tu t'es éloigné du Père Céleste, tes malheurs commencent à en accélérer. Ça cuit seulement sur toi. Jusqu'à ce que ça devienne calciné. Même le Michelin ne cuit plus. Ça traverse l'étape du Michelin cuit et ça commence à brûler. Tout est cramé carrément dans ta vie. Quand vous venez à Christ, qu'est-ce qui vous amène à Christ? C'est les douleurs que vous avez eues loin de lui, non? Pourquoi Dieu laisse souvent pour vous souffrir? Parce que c'est parfois la seule méthode pour vous ramener. Il laisse d'abord que le diable joue bien au ballon avec vous. Bien même, coup de tête, aile de pigeon, amorti orienté. On fait tout ça avec vos vies. Pas de résistance. Quand ça cuit bien, vous commencez à chercher des solutions. Et quand vous avez vraiment la grâce que Dieu vous aime, vous tombez sur un vrai instrument de Dieu. Là, Dieu vous explique encore que, bon, bat la terre. On pose d'abord le ballon. Bat le centre, on recommence. Tu étais où? Tu savais que ça se passait comment? Bon, maintenant, pour que je rattrape toutes les choses qui te sont arrivées, parce que je suis le maître du temps et des circonstances, voici les règles. Tu vas apprendre à marcher selon Dieu, selon Jésus-Christ, à savoir que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, que je suis la lumière du monde, que je suis le Dieu qui s'est offert. Je suis ton Dieu qui est prêt à te protéger, à te donner tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu demandes et tout ce que tu ne pourrais jamais espérer. C'est comme ça que ça commence. Et c'est là-dedans que certains vont commencer à voir que, ah bon, le bonheur est un droit. Être foiré n'est pas la norme. Être bloqué n'est pas logique. Être laid n'est pas cohérent. Mais les gens qui sont alaidis par le diable, tellement touchés que, quand tu le regardes comme ça, ils ont les masques. Le masque se voit de façon différée. Le masque a atteint la forme du visage. D'autres ont un masque de tristesse. Les joues sont entre comme ça, comme s'ils sucent des bonbons du matin au soir. De quoi j'y veux? La vie est dure. D'autres ont vieilli. Tu regardes comme ça, ils pèsent. Tu as quel âge? 38 ans. Quand tu ressens à quelqu'un qui en a 55, let's go, let's. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre les choses de façon simple. Parce qu'un enseignement comme celui-là, je pourrais le résumer en une phrase. Et cette phrase est une question. Que pouvez-vous faire sans Jésus-Christ? Parce que si on tombe d'accord là, on sait même finir l'enseignement, on laisse. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont toc-toc.
La tête est dure. Quand tu veux mettre quelque chose, tu prends le marteau, tu tapes, ça n'entre pas. Tu prends le boudin, tu tapes, ça n'entre pas. Tu vas chercher la buringue, tu tapes, ça n'entre pas. Tu es obligé d'opérer, n'est-ce pas? En tout cas, nous devons signaler que si l'apostasie est un danger pour ceux qui se laissent emporter loin de la foi et qui s'éloignent de Dieu, celle-ci n'est parachevée que lorsque l'homme persiste délibérément dans son péché contre la voie de l'esprit. D'ailleurs, même on a Hébreux 2, le verset 1 à 3 qui en parle, Hébreux 6, 6 qui en parle, Matthieu 12, verset 31 qui en parle aussi. Ceux qui, par incrédulité de cœur, abandonnent Dieu, peuvent se persuader qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont chrétiens, mais leur indifférence face aux exigences de Christ et de l'Esprit et aux avertissements de l'Écriture en dit autrement. Il y a des gens ici, ils sont très nombreux. Quand je parle souvent, vous croyez que je suis en train de plaisanter. Peut-être qu'elle dit ça avec humour. Quand on regarde ta vie n'est pas bien. Mais tu as une relation personnelle avec Jésus. Le diable joue avec toi bien. Il a anéanti tout ce qu'il veut. Ta relation est personnelle. Mais c'est moi-même qui connais Jésus-Christ. C'est moi-même. Je suis l'antenne prophétique de tout le littoral. Si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est moi à qui Dieu parle. Vous là, vous êtes un dérivé de parlage de Dieu. Vos visions sont de fausses visions. C'est moi celle qui sait. Quelle est ta pratique? Tu as examiné ta vie avec Christ? Non. Quels sont tes critères d'examen? C'est là où toi-même tu as atteint la valeur du péché. Non, ça c'est un péché mignon. C'est juste mon péché mignon. Oui, ils ont le péché mignon. Mon péché mignon, c'est que j'aime me masturber. Tu fais quoi là-bas? Parce que personne ne voit. L'envoyer au courant. Laisse ça! Quand on te trouve là-bas, ni avec les bananes, ni avec les bouteilles, ni avec le savon, ou quoi que ce soit. Parce que certains persistent, ils ne veulent pas lâcher. Parce qu'il est possible de se tromper soi-même. Paul exhorte tous ceux qui déclarent être sauvés à examiner eux-mêmes, à s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi. Lisez 2 Corinthiens 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5.
2 Corinthiens 13, verset 5 dit : examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen.
Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Ceux qui se préoccupent sincèrement de leur condition spirituelle et trouvent dans leur cœur le désir de revenir à Dieu, dans la repentance, peuvent être certains qu'ils n'ont pas commis l'apostasie impardonnable. L'Écriture affirme clairement que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse et qu'il acceptera à nouveau tous ceux qui autrefois se trouvaient sous la grâce bienveillante à condition qu'ils se repentent et reviennent à lui. Vous allez lire, ça ce sont les derniers passages. 2 Pierre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, le verset 9. Ésaïe 1, le verset 18 à 19. Ésaïe 1, le verset 18 à 19. Notez bien, parce qu'il y a une série de passages. 2 Pierre 3, le verset 9. Ésaïe 1, le verset 18 à 19. Ésaïe 55, le verset 6 à 7. Galates 5, le verset 4. Galates 4, le verset 19. Galates 5, le verset 4, Galates 4, le verset 19, 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 5, et 2 Corinthiens 2, le verset 5 à 11.
1 Corinthiens 5, le verset 1 à 5, et 2 Corinthiens 2, le verset 5 à 11. Lisez tous ces passages, s'il vous plaît. C'est la conclusion par là.
2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur n'était pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais lui, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen.
Ésaïe 1, verset 18 à 19 dit: Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen.
Autre passage.
Galates, chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Amen. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen.
Pourquoi est-ce qu'on fait une comparaison ainsi? Vous voyez que Dieu, malgré le fait que certains soient déchus, est disposé à fournir encore des sacrifices pour racheter les gens. De l'autre côté, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la foi, nous sommes sous la grâce. Ceux qui veulent vivre sous la loi de Moïse, qu'ils restent là-bas, ils ne jouiront pas de la grâce. Vous savez que la loi du talion n'a pas été annulée. Si vous voulez appliquer la loi du talion, Dieu l'applique sur vous. Or, en vérité, si vous acceptez d'appliquer la loi de l'amour, qui est le commandement le plus grand que Dieu a donné, parce que tout est dans la loi de l'amour, qui est non seulement dans la dimension verticale, d'aimer ton Dieu de toute ta pensée, de toutes tes forces, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Parce que tout est dans la loi. Quand tu restes dans le principe de l'application de cette loi, tu comprends toute la loi, les 10 commandements et tout ce qui va. Parce que la loi, en réalité, quand on veut la regrouper, on la regroupe dans l'amour et la foi. Mais en fait, l'amour regroupe tout. Mais si on veut segmenter, c'est l'amour et la foi. Ceux qui sont dans l'amour et la foi sont sous la grâce. Et ils jouissent donc de la possibilité d'être rachetés. D'où, par exemple, le message que vous avez reçu ici pour ceux qui ont eu la grâce de venir suffisamment tôt pour être dans la prière introductive. Le Seigneur est disposé à effacer tous les péchés. Il dit que les péchés passés sont passés. C'est une exhortation pour que vous compreniez qu'il veut vous sortir de l'enfer terrestre, de l'esclavage. Il veut vous sortir de la douleur, des frustrations, des humiliations. Il veut vous sortir des ténèbres. Il accepte gratuitement, d'abord il efface la gloire. Gratuitement, sans condition. Maintenant, faites le chemin. Faites votre part. Assumez votre part de responsabilité. C'est de ça dont il s'agit. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit à la joie. Vous avez droit au succès. Vous avez droit à l'abondance. Vous avez droit à la richesse sous toutes les formes. Vous avez droit à la victoire. C'est un mensonge scandaleux que de faire croire aux êtres humains qu'il y en a qui sont nés pour être pauvres. Ça n'existe pas en Dieu. Il y a suffisamment de richesses au ciel pour chacun d'entre vous. Il y a suffisamment de richesses au ciel pour que chacun d'entre vous soit riche en Jésus-Christ. Il y a suffisamment de richesses au ciel pour que chacun d'entre vous ait sa part d'héritage en Jésus-Christ. Personne ne peut prendre votre part. Même quand quelqu'un vole vos grâces, il ne peut pas aller loin avec. Ça ne lui sert que pour un moment. Personne ne peut vous prendre votre héritage. Alors que chacun d'entre vous travaille à posséder son propre héritage. Que chacun d'entre vous travaille à rentrer pleinement dans ses droits en Jésus-Christ. Parce que Dieu n'attend que ça. Il ne veut pas perdre une âme. Il ne veut pas envoyer quelqu'un en enfer. Il ne veut la souffrance de personne. Il ne veut la perdition de personne. Amen.